Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de podcasts où nous parlerons de l'image du couple dans la Bible. Alors, les relations de Dieu avec les hommes sont souvent imagées à travers le mariage dans la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les prophètes comparent souvent l'alliance de Dieu et Israël avec l'alliance entre un homme et une femme. Le mot alliance a d'ailleurs le même sens que celui du mot mariage. On peut lire dans Jérémie au chapitre 2, la parole du Seigneur me fut adressée. Va faire entendre ce message à la population de Jérusalem. Voici ce que déclare le Seigneur. Je me souviens de toi autrefois, comme tu étais attaché à moi quand tu étais jeune, comme tu m'aimais quand tu étais ma fiancée. Tu me suivais dans le désert, cette région où rien ne pousse. Israël, tu étais alors à moi seul, comme les premiers produits d'une récolte. Celui qui osait te toucher avait affaire à moi. Il lui arrivait aussitôt malheur, déclare le Seigneur. Dans Osée aussi, Israël est comparé à la femme de l'Éternel, qui s'est prostituée et est allée vers d'autres dieux. Il y a un jeu de mots puisqu'on dit qu'Israël est allé vers d'autres Baals, et Baal est à la fois le nom d'une divinité ancienne, et c'est aussi le mot pour dire mari. Donc Israël est allé vers d'autres maris. On retrouve cette image du couple aussi, bien sûr, dans le Cantique des Cantiques. Dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme l'époux avec l'Église pour épouse. La fin des temps est aussi comparée à un festin des noces. Une des dernières paroles de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 17, « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et Paul, dans Éphésiens, au chapitre 5, compare le couple homme-femme au couple Christ-Église. Au verset 22, on lit « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. » Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et nous allons voir dans la Genèse pourquoi Dieu institue le couple. Parce qu'ici, Paul reprend une parole de la Genèse quand il dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et donc, derrière cette question de pourquoi Dieu institue le couple, pourquoi avoir créé l'homme et la femme? Et donc, pour répondre à cette question, nous lisons dans Genèse au chapitre 1, verset 26, « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. À cette lecture, on remarque qu'à la création de l'homme, la Bible précise bien que Dieu les créa mâle et femelle. Et tout de suite après, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Donc le premier but d'avoir créé l'homme et la femme, c'est d'être fécond pour remplir la terre. C'est la première parole que Dieu dit au couple, « Soyez fécond ». Si on reprend le verset 27, on nous dit « Il le créa à l'image de Dieu » et tout de suite après, « Il les créa, mâle et femelle ». On passe du singulier au pluriel et on peut l'interpréter comme ceci. Ce n'est que lorsque la femme et l'homme s'unissent qu'ils reproduisent l'image de Dieu. C'est alors qu'ils sont féconds, qu'ils portent du fruit. L'union de l'homme et de la femme reconstitue l'image de Dieu. Et cela est renforcé en hébreu par le mot « homme » qui se dit « ish » et « femme » qui se dit « isha ». Ces deux mots ont trois lettres. Deux lettres communes et une lettre différente dans chaque mot. Si on met ensemble les lettres différentes, cela forme le nom de Dieu. C'est-à-dire que si l'homme et la femme se complètent et que chacun apporte sa particularité, ce qui le différencie de l'autre, il reforme alors l'image de Dieu dans le couple. Par contre, si on ne garde que les lettres qu'ils ont en commun, on reconstitue le mot « feu », synonyme de destruction. On peut y voir une première condamnation de l'homosexualité, L'homme et la femme s'unissent parce qu'ils sont différents et qu'ils peuvent apporter chacun leur particularité dans le couple. Pour cette notion d'union, on peut aller plus loin. En hébreu, il y a deux mots pour le mot unité, pour le mot un. Il y a le mot erad et le mot yarid. Yarid signifie unité indivisible, un bloc qu'on ne peut pas diviser. Erad, par contre, signifie plutôt l'unité de plusieurs choses ensemble. Et quand on parle de l'homme et de la femme qui deviennent un, on emploie le mot erad. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans la Bible une phrase qui est répétée très souvent par les Juifs dans la tradition, et c'est une phrase aussi qui nous arrive de chanter ou de lire, c'est celle qu'on trouve dans Deutéronome au chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dans ce passage, le mot pour dire « l'Éternel est un », encore une fois, c'est le mot « erad ». Ce n'est pas le mot « yarid », un bloc indivisible. C'est une unité dans la pluralité. C'est pour montrer, déjà, la Trinité divine. On le voit aussi dans la phrase « faisons l'homme à notre image ».« Faisons » est au pluriel. Regardons maintenant dans Genèse au chapitre 2 pour avoir plus de détails sur cette création. Au verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc ici, il y a des informations supplémentaires sur la création du couple. Au début, l'homme est seul. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu montre tous les animaux à celui-ci pour qu'il se trouve une aide qui soit son vis-à-vis. Mais l'homme ne trouve personne. Dieu forme donc la femme à partir de la côte de l'homme. Et là, l'homme voit la femme et il dit « os de mes os, chair de ma chair ». Il a enfin trouvé une aide qui soit son vis-à-vis. Quand il a enfin trouvé la femme, l'homme va la nommer. Et dans la Bible, ça veut dire que l'homme prend autorité sur la femme. Juste avant, on a vu que Dieu montrait tous les animaux à l'homme pour que l'homme les nomme. Et c'est comme ça que l'homme prend autorité sur les animaux. Le principe de l'autorité de l'homme sur la femme est repris par Paul quand il compare le couple homme-femme avec le couple Christ-Église, dans le passage qu'on a lu dans Éphésiens, pour montrer que la femme doit être soumise à son mari et qu'en même temps celui-ci doit l'aimer de la même manière que Christ a aimé l'Église. Il dit « Femme, soyez soumise à votre mari comme l'Église est soumise à Christ ». Et de nos jours, beaucoup des notions que l'on a abordées dans ce podcast sont attaquées par la société. Le fait que Dieu nous crée mâle et femelle est remis en cause par le courant transgenre. Le fait qu'un couple, c'est un homme et une femme pour être complémentaires est remis en cause par l'homosexualité. Le fait que la femme doit être soumise à son mari est remis en cause par les personnes qui pensent qu'ainsi le principe d'égalité est perdu. Mais nous devons tenir ferme sur les fondements de la création du couple dans la Genèse. À la fin des temps, Jésus reviendra chercher son épouse. Dans Apocalypse, au chapitre 19, verset 6, on peut lire. « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Pour conclure ce podcast, regardons-nous. Faisons-nous partie de cette Église qui se prépare pour être l'épouse de Christ et qui aura donc part au festin des noces? Ça, c'est à chacun de répondre. Je vous invite à lire le chapitre 24 de la Genèse, où l'on parle du mariage d'Isaac, ainsi que le psaume 45.
Pour résumer l'histoire du mariage d'Isaac, Abraham, son père, envoie son serviteur, Eliezer, choisir une femme pour son fils dans le pays de sa famille. Il ne veut pas une femme cananéenne. Le serviteur arrive dans ce pays et trouve Rebecca. Il va parler à sa famille et Rebecca accepte d'aller se marier avec Isaac. Le serviteur revient donc avec elle et Isaac la prend pour femme. On va essayer de voir ensemble quelles remarques et quels parallèles on peut faire dans cette histoire. Pour les personnes d'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le mariage idéal. dans notre société, quel homme accepterait qu'on choisisse sa femme à sa place? Quelle femme serait prête à quitter son pays, sa famille, pour aller épouser un homme qu'elle ne connaît pas et même qu'elle n'a jamais vu? On ne va pas prendre ce mariage comme exemple à suivre pour nous. Bien sûr, aujourd'hui, pour les chrétiens, on nous dit de bien connaître une femme avant de l'épouser. Mais nous allons voir que cette histoire peut quand même nous enseigner des choses importantes pour nous aujourd'hui. Alors, il y a quatre personnages principaux. Abraham, Isaac, le serviteur d'Abraham, nommé Eliezer, et Rebecca. Plusieurs remarques. Le serviteur accomplit sa tâche alors que ça le dessert. En effet, à cette époque, si Isaac n'a pas d'héritier, c'est le premier serviteur qui hérite, donc lui. Pourtant, il va s'appliquer à bien remplir sa mission. Abraham a donc une grande confiance en lui. Le serviteur ne compte pas sur sa sagesse, mais il compte sur l'aide de Dieu. Son nom est Eliezer, qui veut dire « Dieu secours ». Abraham ne veut pas une femme cananéenne pour son fils. Il respecte la parole de Dieu, il veut une femme de sa patrie, qui vienne de sa patrie. Abraham ne veut pas qu'Isaac retourne dans sa patrie, parce que sinon Isaac aurait pu aller chercher une femme pour lui. Mais Isaac est le seul patriarche qui n'a jamais quitté le pays promis. Le serviteur, on le voit, demande un signe quand il arrive au puits. Pourquoi ce signe? Le chameau peut rester longtemps sans boire, mais quand il boit des quantités énormes. Et là, on voit qu'il était au puits avec 10 chameaux. Donc, puiser de l'eau pour 10 chameaux était un rude travail. Et par ce travail-là, donc, on peut voir le courage et l'hospitalité de Rebecca. On le voit aussi, au début, la famille de Rebecca est d'accord pour la laisser partir, mais après ils disent au serviteur, « Pars devant et elle te rejoindra ». Mais le serviteur n'est pas dupe, c'était sûrement dans le but de convaincre ensuite Rebecca de ne pas partir. Et donc, contrairement aux coutumes de l'époque, on va demander l'avis de Rebecca. Peut-être la famille espère qu'elle refusera. Il y a toutes les raisons de penser qu'elle voudra rester, quitter son pays, sa famille, pour aller épouser et vivre avec un inconnu. Et pourtant, contre toute attente, Rebecca accepte. Pourquoi ? Rappelons-nous que le serviteur a bien raconté toute l'histoire, et donc comment Dieu l'a aidé à trouver Rebecca. Elle s'est peut-être dit, « C'est la volonté de Dieu que je quitte ma famille pour me marier. Quoi qu'il en coûte, je veux faire la volonté de Dieu. » Cela veut dire que, comme Abraham, elle a fait entièrement confiance au serviteur et à ce qu'il a raconté, parce qu'il aurait pu avoir menti. Mais comment le serviteur a confirmé son histoire? La seule preuve de ce qu'il disait, c'était les cadeaux qu'il avait emportés de chez Abraham. On nous dit qu'il emporta ce qu'Abraham avait de meilleur. Cela a sûrement dû aider à convaincre et Rebecca et aussi sa famille. Après ce long voyage, à son arrivée, Rebecca voit Isaac de loin, méditant dans les champs, le soir. Situation très romantique. Comment réagit-elle? Dans nos traductions, il est dit qu'elle saute du chameau, qu'elle descend du chameau. Littéralement, la vraie traduction, c'est qu'elle tombe du chameau. Que s'est-il passé? Alors là, les sages d'Israël, la tradition, ils en ont déduit que Isaac devait être très beau. Et on peut se dire que là, à ce moment-là, Rebecca est littéralement tombée amoureuse d'Isaac. Finalement, on pense à un mariage arrangé quand on voit ce mariage, mais c'est une belle histoire d'amour où chaque personnage a fait confiance en Dieu. Abraham, qui a laissé son serviteur choisir en sachant que Dieu allait faire réussir son entreprise, le serviteur qui se confie en Dieu pour le choix de Rebecca, et Rebecca qui accepte de suivre un inconnu parce qu'il a été guidé par Dieu. Même Isaac, de la même manière que Rebecca, après avoir entendu le récit du serviteur, la prend pour femme, et on nous précise, il l'aima. C'est donc un mariage arrangé, mais un mariage arrangé par Dieu. Donc c'est le meilleur mariage. Maintenant, on va voir cette image plutôt de manière prophétique. À quoi nous font penser les personnages? Ou à qui nous font penser les personnages? Abraham représente Dieu le Père. Dieu veut le meilleur pour son fils, Jésus, ici représenté par Isaac. Il cherche une épouse pour son fils. Isaac, c'est le fils de la promesse. Il est né miraculeusement. Isaac est l'image du Messie, de Jésus. Il a été sacrifié, même si pour Isaac, Dieu est intervenu juste avant que son père ne le sacrifie. On peut voir aussi un autre parallèle entre Isaac et Jésus dans le psaume 45 qui, en parlant du Messie, dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Et on l'a vu, Isaac devait être très beau. Le serviteur Eliezer, qui veut dire Dieu est celui qui m'aide, c'est l'image du Saint-Esprit, envoyé pour chercher une épouse pour le Fils de Dieu. Et enfin, Rebecca, représente l'Église, l'épouse du Seigneur. Rebecca entend l'appel du Saint-Esprit, du serviteur, pour aller vers l'époux. C'est ce qu'on retrouve dans la parabole des dix vierges en Matthieu 25. Au verset 6, on dit précisément « Au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. » C'est exactement ce que fait Rebecca. Et aussi dans le psaume 45, « Écoute ma fille, quitte ton pays. » C'est la même parole qu'on adresse à Rebecca, et qui d'ailleurs avait été adressée à Abraham auparavant. Quitter la maison de son père, c'est aussi symbolique. On peut faire le parallèle avec ce que dit Jésus aux Juifs qui débattent avec lui en Jean chapitre 8. Ils disent qu'ils ont pour père Abraham. Alors Jésus leur dit que si c'était le cas, ils feraient les œuvres d'Abraham. Ensuite, ils disent que c'est Dieu leur père. Alors Jésus leur dit que si c'était vrai, ils l'aimeraient car lui vient du père. Il finit par leur dire « Vous avez pour père le diable parce que vous faites les œuvres du diable. » Donc Rebecca qui quitte la maison de son père, c'est l'Église, le chrétien, qui arrête de pratiquer les œuvres du diable. Rebecca a fait un acte de foi en allant avec le serviteur parce qu'elle devait être partagée entre écouter la voix de son père, de sa famille, ou la voix du serviteur. L'Église doit arrêter d'écouter la voix du diable, même si elle paraît familière, mais doit au contraire écouter la voix du Saint-Esprit, même si elle paraît étrangère, au début en tout cas. On l'a vu, le serviteur offre ce qu'Abraham avait de meilleur. Le Saint-Esprit offre ce que Dieu le Père a de meilleur. Les dons du Saint-Esprit sont là pour nous encourager à aller vers Jésus. Ils sont là pour bâtir l'Église, c'est-à-dire préparer l'épouse à rencontrer Jésus. Rebecca rencontre Isaac le soir, à la fin de la journée. Cela représente les temps de la fin. L'enlèvement de l'Église, qui aura lieu à la fin des temps, dans le Nouveau Testament, c'est, on ne parle pas d'enlèvement, on parle de rencontre, la rencontre de l'Église avec Jésus. Et tout cela se finit comment ? Par le festin des noces, encore une allusion au mariage, le festin des noces de l'agneau. Donc dans toute cette histoire, on peut remarquer que le personnage principal, c'est pourtant celui qu'on considère le moins. Le serviteur Eliezer est dans notre parallèle le Saint-Esprit. C'est lui que Dieu envoie avec les dons les meilleurs pour l'épouse. C'est lui qui va à la rencontre de l'épouse, qui lui offre les cadeaux et l'amène vers l'époux. Tout le monde a fait entièrement confiance en lui. Voilà ce que doit être notre attitude, une entière confiance dans le Saint-Esprit qui nous mène à Jésus. Voilà ce qu'on pouvait dire du mariage d'Isaac et de Rebecca. N'hésitez pas à noter vos questions et vos remarques pour que l'on puisse en parler lors de notre rencontre à la fin du mois. Que Dieu vous bénisse.